Merci beaucoup, groupe de louanges, notre frère Ghislain, pour la conduite de ce temps. Nous sommes bénis de voir ce que le Seigneur veut faire aussi dans notre Église et dans l'Église méthodiste libre du Canada. Donc, comme vous avez dit, cette semaine, jeûne et prière, on va vous donner des nouvelles, comment est-ce qu'on va procéder aussi en tant qu'Église aussi, en dehors des activités qui sont proposées. Il y aura des temps de réflexion sur les lettres de l'Apocalypse, même si nous les avons vues il n'y a pas très longtemps, ce sera l'occasion de voir, de partager avec différents pasteurs qui vont partager leur impression sur ces différentes lettres et ce que nous pouvons apprendre aussi à travers ces lettres. Donc, on va vous dire la semaine prochaine comment est-ce qu'on va fonctionner, mais ça va être un bon temps de voir ce que Dieu est en train de faire dans notre Église et dans l'Église méthodiste au Canada. Donc, ce matin, je voulais simplement partager un peu le bilan de mon temps sabbatique. Hein. On a eu jusqu'à maintenant l'occasion, dans les semaines passées, de pouvoir regarder plus par rapport aux jeûnes et prières. Mais je voulais quand même rapidement quand même vous donner quelques détails. Je ne vais pas tout vous donner, ce sera un peu long. Mais déjà, au moins, la première partie, vous montrer quelques photos pour voir comment que le Seigneur nous a bénis, qu'est-ce que nous avons vécu dans ce temps, qu'est-ce que ça m'a appris aussi sur le Seigneur et aussi pour la suite de mon temps, de ma démarche pastorale au sein de l'Église de Saint-Henri. Donc, mais avant d'aller dans le bilan, j'aimerais juste rappeler quelques points importants de ce qu'est un congé sabbatique. Hein. On sait que généralement, quand on dit congé sabbatique, les gens pensent, oh, c'est une année, les gens partent en vacances, se reposer. C'est vrai que ça fait partie de cela, mais c'est beaucoup plus dans le milieu chrétien de voir qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans ce temps sabbatique. Une chose que j'ai vue lorsque j'étais dans l'Ouest, comment que lorsque on disait qu'on prenait un temps sabbatique, tous les membres savaient ce que c'était. C'était vraiment impressionnant. Donc, on voyait comment que les pasteurs là-bas ont l'habitude de prendre des temps tous les X années en temps de retrait pour pouvoir vraiment être devant le Seigneur. On avait vu avant de partir au mois d'août pourquoi un temps sabbatique et qu'est-ce que ça veut dire. Donc la meilleure image du congé sabbatique est peut-être celle d'un pèlerin qui, à la recherche d'une nouvelle touche de Dieu, de dire Seigneur, c'est comme je veux venir devant toi comme avec une touche, un rafraîchissement, un renouvellement. Et comme vous voyez un peu sur l'écran, le pasteur Roberts, qui était un des fondateurs de l'Église méthodiste libre, a décrit les 8 R de l'importance de ces congés. Donc, relaxation, un temps de détente, un temps de jouer, de récréation, hein, un temps de s'amuser aussi, un temps de repos, c'est sûr, reprendre des forces physiques, un temps de renouveau, renouveau personnel, mais aussi spirituel, un temps de réveil, de vivre quelque chose de nouveau dans notre cœur, un temps de repenser, repenser à notre vie, à notre cheminement, à notre ministère, un temps de recentrage. Seigneur, le désir, c'est que je puisse me recentrer uniquement sur toi. Et ensuite, en retour, c'est-à-dire dans le sens de, on revient avec quelque chose pour pouvoir continuer notre marche. Comme vous savez, ça fait plus de 20 ans que j'exerce ce ministère comme pasteur ici, et j'aime beaucoup ce que je fais, et j'ai encore besoin de me développer, de progresser dans ce ministère pastoral. Comme pour les plus anciens, je pense que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais comment le travail au début était ardu, hein? Comment que l'Église a vécu toutes sortes de situations difficiles, et il a fallu tout rebâtir. Construire une nouvelle confiance, des nouvelles relations avec des gens, faire avec des finances qui étaient très difficiles aussi au début. Donc, je ressentais que j'avais besoin de prendre ce temps de recul pour justement voir où était mon ministère pastoral. Qu'est-ce que Dieu m'appelait maintenant de cette prochaine saison? Est-ce que je devais continuer comme ceci ou est-ce que je devais peut-être aller dans d'autres voies? Il y avait aussi la question aussi, maintenant qu'on habite aussi dans la ville de Contrecœur, est-ce que Seigneur, tu m'appelles peut-être plus tard à développer quelque chose, à créer quelque chose là-bas, une église, un groupe pour pouvoir encourager les personnes aussi dans cette ville. J'avais mentionné que Dieu nous appelait à aller au moins 2 mois dans l'Ouest canadien parce qu'il avait un rendez-vous avec nous. Pourquoi? J'arrivais pas vraiment à vous dire. Quand les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu vas faire dans l'Ouest? Je disais, bon, on va aller là-bas, mais je sais pas très bien. Ouais, mais normalement, tu dois avoir un plan quand même, tu dois faire ça. Je dis, ben, je vais prier, je vais écouter le Seigneur, je vais peut-être travailler, j'ai besoin, je vais visiter, mais je ne sais pas exactement ce que je vais faire parce que c'était la première fois que je vivais un temps comme ça, mais aussi parce que j'avais pas toutes les réponses, pas toutes les réponses à mes différentes questions. Et c'est vrai que des fois, Dieu permet dans nos vies des temps d'arrêt, des temps de retrait pour nous parler plus spécifiquement. Et lorsque justement on sort de notre routine quotidienne, alors Dieu est capable de nous parler. Je ne dis pas simplement juste quand on sort de notre routine, mais lorsqu'on se dégage de toute responsabilité, puis qu'on vient devant vraiment Dieu, à ce moment-là, Dieu peut vraiment nous parler aussi. Donc, voici quelques raisons comment pourquoi je pense que Dieu m'a permis que je puisse vivre cette expérience en dehors du Québec et de chez moi. C'est vrai que plusieurs personnes m'ont demandé, mais pourquoi tu vas dans l'Ouest? Pourquoi que tu restes pas chez toi ou comme ça? Le Seigneur avait ses raisons. Le Seigneur avait ses raisons aussi pour que je puisse prendre ce temps à l'extérieur. Donc, il voulait que je puisse me connecter seulement à Dieu et non sur d'autres choses. Le fait que je sois loin de chez moi, dans un milieu que je ne connaissais pas, me permettait de vraiment dire, Seigneur, c'est devant toi que je veux être. Parce que dans mes affaires, j'aurais pu facilement faire des choses chez moi, etc. Mais là, j'étais vraiment à l'extérieur. On avait quelques affaires avec nous, mais on était limités. Donc, j'étais comme pour moi dire, Seigneur, je n'ai pas d'autre choix que venir devant toi. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un gars qui aime bien faire plein de projets dans ma tête, que j'aime beaucoup faire de choses. Alors, le fait que j'étais loin de mes habitudes, de ma routine, dans un contexte que je ne contrôlais pas vraiment, j'ai dû vraiment m'appuyer uniquement sur Dieu. Ça m'a permis vraiment de me concentrer sur ce que le Seigneur voulait que je puisse faire. J'ai vu vraiment comment que Dieu avait un plan pour moi. Et il m'a révélé fur et à mesure. J'étais vraiment ébahi à chaque fois, plein de reconnaissance que je pouvais vivre. J'aimerais vous présenter un peu les différentes étapes qu'on a faites pour vous montrer comment que Dieu est fidèle. Comment que Dieu, lorsqu'on marche par la foi, lorsque on croit que Dieu est fidèle, Dieu ouvre les portes d'une façon incroyable. J'avais un certain plan dans la tête, mais j'ai vu que le plan de Dieu était bien, bien, bien meilleur que le mien, hein? Mais ça, j'ai vu seulement à un moment donné. Donc, notre premier séjour a été à Weyburn, donc c'est une ville à peu près de 10 000 habitants en Saskatchewan. Donc, j'avais eu des contacts avec la pasteur de l'église méthodiste, mais je ne la connaissais pas vraiment. Et puis, j'avais expliqué ce que je voulais faire, mais c'est clair qu'on ne sait pas très bien non plus qu'est-ce qu'on voulait vraiment nous faire. Et le dimanche, quand on arrivait donc au culte, qu'on m'a expliqué un peu dans les vidéos, pour certains, peut-être c'est une répétition. Quand je suis arrivé le dimanche matin, il nous a présenté à l'église, il nous a dit, ben, allez aux membres, allez saluer le couple Reichenbach pour ce temps sabbatique qu'ils vont faire. Et là, il y a un couple qui est venu, qui m'a demandé, mais où est-ce qu'on va dormir? Et puis nous, on avait des plans, bon, ben, peut-être au motel, peut-être dans un camping, on avait tout pris nos affaires avec, parce qu'on s'est dit, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller. Et il nous dit, non, 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 ben, vous pouvez venir au condo. Donc, vous avez pu voir la photo. Pendant une semaine, j'étais dans un condo, vraiment tout équipé, vraiment le beau confort. La première semaine, ça nous a permis, en tant que couple, de vraiment juste se reposer. On avait besoin de repos, de simplement relaxer. Et ça a été vraiment une belle semaine, cette première semaine. Et ensuite, la deuxième semaine et semaine suivante, on nous avait dit, le dimanche, on nous a dit, ben, il y a une famille qui est prête à vous donner ou à prêter sa maison, hein, qui est au plein milieu des champs. Mais là, on ne savait pas très bien qu'est-ce que c'était quand, puis qu'est-ce qu'ils attendaient de nous. Donc, un jour, on était avec la pasteur et voir, puis on ne comprenait pas très bien, OK, combien de temps. Puis quand on est arrivé là-bas, on a vraiment saisi que cette famille allait partir à l'étranger pendant plusieurs semaines pour aller voir un membre de leur famille. Et ils nous disaient, on vous laisse la maison, vous vous occupez des chevaux, du chien, des chats, et puis vous faites ce que vous voulez. Vraiment une super belle maison au plein milieu des champs. Donc, on n'était pas dérangés vraiment. Donc, on a vraiment vu la grandeur, la bonté de Dieu. Et puis, ils avaient rempli le frigidaire de plein de choses pour nous et comme ça. Et ils nous avaient montré aussi, vous avez là toute une garde-manger, vous pouvez vous servir sans problème. Et on était, waouh, waouh, OK. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Ils ont juste entendu, ouais, un couple pastoral du Québec va venir dans la région. Imaginez que vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, que voir dans cette église-là, il y a des gens qui ont pris les vacances en même temps que nous, on arrive. C'est incroyable, je veux dire. Donc, je veux dire, quand je vois ça, c'est magnifique. C'est vraiment de voir, mais Seigneur, tu prépares les choses à l'avance. Alors, ces temps qu'on a pu passer là-bas dans cette petite fermette, ça nous a permis vraiment vraiment des temps de lecture, de prière, de réflexion, en nous promenant les alentours. On profitait d'être seul. Hein. Le premier voisin était à 500 mètres, donc on n'était vraiment pas dérangé. Et de se connecter entre Dieu et nous, c'était vraiment un temps magnifique. Alors la question qu'on s'est posée, mais comment est-ce qu'on va développer notre anglais si on est toujours tout seul, hein? Parce qu'on ne peut pas vraiment converser. Mais pendant ce temps-là, on a pu apprendre ou développer notre anglais à travers une application. Ce temps à Weyburn nous a permis de voir que c'est une ville qui a la même grandeur que la ville de Contrecœur, à peu près 10 000 habitants. Il y avait au moins 15 églises évangéliques, et pas des églises de 50, mais des églises de 100, 200, 300 personnes, comme à l'église de méthodiste de Weyburn. Et quand je regardais ça, je dis, Seigneur, on habite à Contrecœur, il y a une seule église. C'est le même nombre d'habitants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que dans l'Ouest, les gens sont réceptifs à l'Évangile, qu'ici au Québec, les gens ne vont pas à l'Église, les gens rejettent l'Église? Et ça m'a beaucoup travaillé pour dire, Seigneur, est-ce que tu veux me montrer que tu veux aussi faire quelque chose? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Est-ce qu'il y a encore de l'annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ aussi à contre-cœur? Dans la deuxième partie de notre séjour, ah, ça c'est Nicole avec les chevaux sur place. Notre deuxième séjour, ça a été à Babota, donc c'est encore au Saskatchewan, à quelques centaines de kilomètres, dans un petit village de 600 habitants. Donc le pasteur de l'église nous avait dit qu'on pouvait rester chez une personne de l'église qui était le délégué de l'église. Mais on n'avait pas plus de renseignements. Donc lorsqu'on est arrivé chez lui, on a vraiment été accueillis chaleureusement par un célibataire qui nous a laissé tout le deuxième étage de sa maison. Donc, à la différence de la première étape, on était vraiment avec lui tout le temps. On mangeait avec lui, on vivait avec lui. Donc là, on a vraiment pu vraiment parler, partager. Et on a encore vu la main de Dieu. Nicole a pu proposer, comme elle aime bien faire la cuisine, de dire, ben, je m'occupe de faire la cuisine midi et soir. Et puis lui, il était dans le temps des moissons. Donc, il avait une ferme. Il travaillait avec un autre fermier. Et il était vraiment content de pouvoir manger, d'arriver le soir, des fois tard, et de pouvoir être capable de manger directement. Encore là, c'était vraiment un endroit magnifique, un endroit où j'ai pu me promener dans la nature, de pouvoir réfléchir, de pouvoir converser avec Dieu. C'était vraiment des temps magnifiques. Et le couple pastoral, c'est une église à peu près de la même grandeur que Saint-Henri, était à temps plein à l'église, était salarié à temps plein. Lui-même était aussi maire du village. Mais on a vu comment que même dans un petit village, comment que l'église pouvait faire une différence. Il y avait juste trois églises dans un village de 600 habitants, hein, c'est quand même pas mal, hein? Ils ont accueilli dans ce village plus de 15 familles ukrainiennes. Je veux dire, ils les ont accueillis, ils les ont nourris au début, ils ont trouvé des vêtements, des affaires, des meubles, des maisons, etc. Et plusieurs personnes, ces personnes ont pu petit à petit aussi rejoindre aussi l'église. Ils avaient aussi un magasin de seconde main. Les trois églises avaient travaillé pour pouvoir avoir un magasin de seconde main, des habits, etc. Et la grande différence peut-être d'ici, c'est que c'est la municipalité qui avait prêté le local, qui payait tous les frais, et c'était des bénévoles des trois églises qui, petit à petit, durant la semaine, proposaient de leur aide. Mais ce qui m'a marqué, à un moment donné, j'ai lu dans le journal du village, comme quoi que ce magasin de seconde main, en l'espace de, je pense, 6 ou 8 ans, ils ont été capables de récolter 240 000 dollars de ventes. Et qu'est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Puisque c'était les bénévoles de l'Église qui s'occupaient, ils ont réparti l'argent dans les églises. Donc chaque Église a reçu 80 000 dollars. Quand je vois ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est incroyable. Même dans un petit village, tu peux faire de grandes choses. Tu vois comment que financièrement, ils sont capables de donner aussi aux autres. Et c'est vrai que dans l'Ouest, on voit que beaucoup que... Les autorités ont beaucoup plus d'ouverture à travailler avec les églises que peut-être ici au Québec. Je veux dire, ici, on ne verrait pas du tout une municipalité dire on vous laisse un local gratuit, faites vos choses et puis comme ça. Non, non, je veux dire, mais c'est bon, c'est le contexte, hein, c'est qui est différent. Mais vraiment, ça a été vraiment voir comment que Dieu, même dans des petits villages, Dieu agissait. J'ai pu voir vraiment comment que cette église continuait de fonctionner vraiment. Là, on voit donc notre délégué avec son chien quand on était donc chez lui à Wawota. Ensuite, nous avons une troisième étape. Nous avons été quelques jours à Saskatoon, revoir une amie que nous avons rencontrée 10 ans auparavant. On avait déjà eu l'occasion d'aller à Saskatoon. Ça fut vraiment un bon temps de retrouvailles avec cette amie et aussi de voir une belle église méthodiste, ici l'église méthodiste de Saskatoon. un beau bâtiment qui travaillait parmi le quartier. Une chose extraordinaire dans cette église qu'on a été le dimanche, c'est vraiment la joie, mais de voir qu'ils avaient adapté le locaux pour louer une partie de locaux durant la semaine. Durant la semaine, ils accueillaient une garderie. Et toutes les enfants, une partie des enfants de ce quartier venaient à cette église, à cette garderie. L'histoire un peu de cette église, c'est qu'à un moment donné, ils avaient un bâtiment ailleurs. Puis ils voulaient construire quelque chose d'un peu plus grand. Et puis Dieu leur a montré, dire, maintenant vous allez déménager dans un nouveau quartier qui se développe. Et c'est comme ça qu'ils ont construit, ils ont vendu le bâtiment où ils étaient dans le centre-ville de Saskatoon, et ils ont été ce nouvel quartier. Et là, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup de services. Et voilà pourquoi qu'ils ont proposé ce service de garderie. Et à la grande surprise des membres, ils ont vu que les gens commençaient à s'intéresser aussi à l'église. À force de venir apporter leurs enfants tous les jours à l'église, ils voyaient les gens de l'église ici, ils voyaient la joie, ils voyaient s'ils intéressaient. Et ça a eu vraiment un impact aussi dans l'église, de voir comment que Dieu a dirigé les choses. Lorsqu'on regarde à Dieu, lorsqu'on reste dans sa main, Dieu conduit chacun dans les plans qu'il a aussi pour eux. Ensuite, notre quatrième étape a été dirigée vraiment aussi par Dieu. Parce qu'on devait aller au Manitoba, donc dans un autre village à Roblin, chez un pasteur. Et depuis quelque temps, bon, c'est clair qu'on écrivait courriel, texto pour savoir, dire, OK, on va arriver à tel jour. Et pendant au moins 15 jours, 3 semaines, j'écrivais toutes sortes de courriels, de textos, de téléphones. J'avais aucun contact. Je dis, bon, est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il n'est plus intéressé? Est-ce qu'il est en vacances? Non, je ne pensais pas qu'il est en vacances, mais je dis, comment on va faire? Donc, j'essaye de trouver des solutions. Puis un jour, on a dit, bon, on va quand même partir. Donc, on est parti en direction de Roblin sans savoir exactement où on allait. Et à un moment donné, dans les échanges que j'avais avec d'autres pasteurs, je dis, mais comment toi tu fais pour rejoindre ce pasteur? J'arrive pas à le joindre. Il dit, oh, essaye par Facebook, par Messenger. Peut-être que ça va arriver. Moi, je ne suis pas du tout Messenger. Alors, on a essayé et moins d'une heure après, on avait un contact avec lui. Et puis, il nous dit, oh, pas de problème, on vous accueille comme ça chez nous et comme ça. Et c'est là qu'on est arrivé à Roblin, d'arriver dans une famille avec huit enfants. Des enfants de 1 à 20 ans, vraiment une belle famille. C'est sûr que quand tu habites avec une famille de huit enfants, ça bouge, hein? Ça bouge beaucoup, hein? Donc, ce n'était pas vraiment le temps de repos, mais on a vécu des belles choses. Et chose étonnante, ce pasteur, et donc il travaillait pour l'église, il avait aussi une petite ferme, un ranch. Il avait plus de 40 chevaux. Et il faisait du rodéo. Imaginez un pasteur avec son chapeau de cow-boy faire du rodéo. Toute la famille faisait du rodéo aussi, là. C'était vraiment incroyable d'entendre cela. Et le dimanche, c'était toujours magnifique quand on allait au culte avec eux. Ils sortaient les bottes de cow-boy, les chapeaux, et comme ça, les jeans, et comme ça. C'était vraiment, mais vraiment du style de Far West, comme on pourrait dire, comme on voit dans les films, hein. Mais j'ai vraiment été baigné de voir ce pasteur et cette église travaillaient. Un ministère qu'il faisait beaucoup, c'est qu'à travers les chevaux, il faisait des cours aux enfants du village, de la ville. C'est à peu près une ville de à peu près 2000 habitants. Et donc, il les aidait à savoir comment monter à cheval. Et à travers cela, il faisait aussi un témoignage de la bonne nouvelle. Donc, il montait à cheval un petit moment, puis après, il y avait un partage de l'évangile. Et ça a eu des impacts. Il m'a raconté comment il y a là-bas, dans la région, il y avait aussi beaucoup de peuples autochtones. Et comment grâce à leur travail avec les chevaux, la proximité qu'ils avaient avec ce peuple, plusieurs de ces personnes se sont converties. Et même un matin, un dimanche matin, c'est une petite église, mais on a vu trois, quatre personnes, des autochtones arriver, écouter la parole de Dieu. C'était vraiment d'une façon vraiment magnifique. Et puis après, en retour vers le Québec, on s'est arrêté donc proche de Winnipeg, à Salt Lake, donc une petite ville, pour s'arrêter à l'église de Saint-Laurent, avec qui je fais justement du mentorat. Je vous ai parlé plusieurs fois de ce renouvellement de l'église, comment je fais du mentorat avec des pasteurs. Et je suis allé voir l'église. Dans une grosse église, plus de deux, non, ils étaient presque 4 000 personnes. Ils faisaient deux cultes. Mais même là, j'ai vu comment tout l'amour de Dieu dans ces personnes. On a rencontré un couple qui parlait français. Et comment qu'ils étaient tellement dans la joie de voir des Québécois parmi eux. Et on a vraiment vécu un temps, on a pu voir rencontrer le pasteur aussi de l'église, partager aussi avec lui. Donc, on a vu que même dans les grandes églises, comment que Dieu bénissait, comment que Dieu pouvait faire. Alors, on a vu que oui, il y a des petites églises, des moyennes, des grandes, mais Dieu travaille dans toutes les milieux. Une chose incroyable, le bâtiment qu'ils ont refait a coûté 16 millions, 16 millions de dollars. En l'espace de 2 ans ou 3 ans, ils ont tout payé, uniquement par des dons. Quand tu entends l'histoire de cette église, de comment elle s'est développée, le pasteur, il y a 20 ans, quand il a repris l'église, elle avait 150 personnes. Elle avait vécu deux divisions. Bon, 150 personnes, c'est normal là-bas, hein, dans l'Ouest. Deux divisions. Et Dieu a fait un travail dans cette église d'une manière incroyable. Et aujourd'hui, elle a un impact dans la société vraiment incroyable. Donc, à travers tout ça, on voit comment que Dieu conduit les choses. Donc, un autre point que j'ai vécu dans ce temps, c'est de me concentrer pleinement sur ce temps, sans avoir toujours en arrière-pensée de ce qu'on vivait peut-être avec le défi de nos propriétaires. Vous savez comment que on a eu des défis un peu avec notre appartement. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Je dis, Seigneur, je te remercie qu'on soit loin de chez nous. Parce que c'est vrai que peut-être avec les situations qu'on vivait, les défis, les tensions, ça aurait été difficile de me concentrer, de me centrer vraiment sur Dieu. Puis Dieu avait prévu cela bien avant que j'arrive à contre-cœur. Parce que rappelez-vous que normalement, je devais faire ce voyage, ce temps sabbatique en 2020. Mais à cause de la pandémie, tout a été repoussé. Un autre point que j'ai été béni, c'est de visiter le beau pays du Canada, de remercier vraiment Dieu pour la belle nature, la création qu'il a faite. Pour ceux qui ont eu l'occasion, puis ceux qui n'ont pas eu l'occasion, je vous encourage. Moi, je n'ai pas besoin d'aller dans le sud, aller à Cuba ou comme ça, au soleil. Le Canada est tellement un beau pays, est tellement vaste, c'est tellement incroyable de voir tous ces différents paysages, de traverser le nord du Québec et de l'Ontario avec des milliers de kilomètres où on voit personne, juste des arbres et des forêts et des lacs. C'était magnifique. Quand je roulais pendant des heures et on ne voyait personne, je dis, Seigneur, mais c'est magnifique, c'est incroyable ta création, comment tu as fait les choses. Ouais, c'est vrai qu'il y avait juste des ours et puis des forêts, mais c'est de voir comment que, puis après on arrive dans l'ouest où c'est des étendues de champs tout plats, puis après on arrive vers les Rocheuses où c'est les montagnes, c'est Dieu fait de grandes choses. Et lorsque justement je voyais tout ça, ça me permettait de remercier Dieu, ça me permettait de dire, mais Seigneur, ta création, elle est vraiment incroyable. Ça m'a permis aussi, dans ce temps de sabbatique, prochain dia, donc, de voir comment que les églises méthodistes libres fonctionnaient, les joies ou les défis qu'ils pouvaient vivre. On a visité plusieurs églises aussi, des petites, comme on a dit, des plus grandes églises. Et j'étais vraiment émerveillé de voir comment qu'ils travaillaient dans ces lieux. Il y a eu, c'est vrai que la pandémie a aussi beaucoup secoué plusieurs églises, qu'ils ont perdu des fois jusqu'au quart de leurs personnes qui ne sont pas revenues à l'église. Mais comment qu'ils continuaient d'avancer, d'aller de l'avant. J'ai vu vraiment aussi justement une grande ouverture des autorités locales pour travailler justement avec les églises. Comment que justement les églises étaient comme au milieu du village, étaient acceptées par la population. C'est vrai que peut-être des fois on a pu voir que des gens vont à l'église par habitude, voire comme un lieu social. Mais on a vu comment que les gens avaient une ouverture à entendre les voix de Dieu dans la bonne nouvelle de Jésus. Une chose que j'ai vue aussi, et ça m'a vraiment frappé, c'est de faire cette connexion entre le Québec et le reste du Canada. On parle souvent, peut-être un peu moins, on appelle ça les deux solitudes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, hein, comme on appelle souvent. Dans les années 95, vous savez que le Québec voulait se séparer, et puis il y a eu beaucoup de... Bon, il y a eu le référendum et comme ça, puis le Canada, au début, dit non, non, il n'y a pas de problème. Mais on sentait que moi-même, à l'église, quand je suis arrivé dans les premières années, je sentais le fait que le Québec était différent du reste du Canada. Et comment que même en tant que chrétien, on était vu différemment. Oh, on est un peu les rebelles, les Québécois, etc., les francophones, ils veulent toujours avoir leur langue à eux, etc. Et chaque fois que j'allais dans les rencontres, même pastorales, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait comme dans la population qui avait cette tension, il y avait aussi dans les milieux chrétiens. Et à grande surprise, lorsque je suis arrivé dans les églises, lorsque j'ai rencontré des chrétiens, je n'ai pas du tout vu cela. J'ai vu comment que les gens étaient contents de nous voir. Ils nous disaient comment qu'ils avaient des amis au Québec, comment ils avaient été visiter Montréal, le Québec, etc. Et j'ai vu vraiment comment que cette connexion entre les frères chrétiens et frères et sœurs chrétiens a vécu quelque chose de vraiment différent. Comment que Dieu a travaillé pour qu'on puisse s'accepter aujourd'hui. Et si on voit aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un grand pas, principalement aussi de l'Église méthodiste libre du Canada, de justement apporter plus de ressources en français, de nous mettre aussi sur la map, comme on pourrait dire. de pouvoir faire des choses aussi en français. Et on voit comment qu'aujourd'hui, il y a cette acceptation qu'on est différent, mais qu'on est tous pouvoir vivre avec le Seigneur. Un autre point, le deuxième qu'on voit sur l'écran, de marcher par la foi en voyant des portes s'ouvrir et voir la grande bonté de Dieu. Vous savez que, bon, je suis missionnaire dans l'âme, que pendant des années, j'ai vécu sans un salaire fixe. Je vivais par la foi. Et dans cette expérience, le fait de partir sans savoir exactement qu'est-ce qu'on allait faire et de découvrir à chaque étape comment que Dieu ouvrait les portes, moi, ça m'a vraiment béni. J'ai été comme revigoré dans ma foi. Je dis, Seigneur, je me rappelle des premières années où quand j'avais pas un salaire, mais tu me permettais de vivre, que jour après jour, tu pourvoyais à mes besoins. Et j'ai vu comment que Dieu voulait aussi que je puisse vivre encore cette expérience, de dire, Philippe et Nicole, gardez confiance, j'ai quelque chose pour vous. Et j'ai quelque chose pour vraiment vous donner de grand. Et tout au long de ce temps, j'ai vécu des belles choses. Tellement aussi qu'un autre point, la réponse de Dieu devant le défi de subvenir à nos besoins financiers. Un de mes idées, c'est de dire, bon, puisqu'on part, puisque c'est clair que le temps sabbatique, bon, Nicole avait perdu son travail juste quelques jours avant de partir, donc elle n'avait pas de salaire. Moi-même, j'ai arrêté, j'avais pas de rénovation, donc pas de salaire. Il y avait juste le salaire de l'église qui était à peu près comme à 30%. Donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va vivre si on doit payer logement, nourriture, etc. Donc, dans ma tête, j'ai dit, ben, je prends mes outils avec moi, puis mes pantalons de travail, puis je vais travailler 2 ou 3 jours, je vais proposer pour pouvoir payer au moins les choses. Imaginez, à part la dernière étape, j'ai jamais sorti mes outils puis mes pantalons de travail. J'ai pas eu besoin de travailler. À chaque fois, Dieu pourvoyait, comme les logements, comme la nourriture. Je dis, waouh! Puis c'est comme Dieu me disait, je veux pas que tu prennes du temps à travailler pour subvenir à tes besoins. Moi, je vais subvenir les besoins par quelqu'un d'autre. Puis dans ce temps-là, toi, tu restes devant le Seigneur. Et ça a été vraiment un temps magnifique de voir dire, Seigneur, mais tu pourvois même du côté des finances. De voir la générosité de ces personnes qui nous offraient tout. Même à un moment donné, même l'Église méthodiste du Québec nous a envoyé un don pour payer les frais d'essence. Ils n'ont jamais fait ça avant, mais ils ont eu le cœur de le faire. On voit que lorsque on reste dans les mains de Dieu, lorsqu'on a la foi en Dieu, Dieu peut pourvoir même du côté financier. Et moi, j'étais vraiment émerveillé, je peux vous dire. On a vécu avec moins de. Il fallait payer l'appartement quand même chez nous. On a payé avec moins de 1 000 $ par mois, on arrivait à vivre. J'aurais jamais pu vivre cela si j'étais resté à contre-cœur. À contre-cœur, j'aurais dû payer la nourriture, les déplacements, etc. Donc, on voit comment que le Seigneur avait préparé les choses. Donc, tous ces points, et bien d'autres encore, m'ont permis de vivre ces 8 R, comme on dit du pasteur Robert, comme expliqué au début. De voir que lorsqu'on fait confiance à Dieu, Dieu agit. Il ouvre des portes et nous fait vivre des expériences qu'on ne pensait jamais. Comme vous savez, donc, dans ce temps sabbatique, l'histoire du prophète Élie m'a accompagné. Lui-même a vécu un certain temps de retrait pour se recentrer sur la mission que Dieu lui avait confiée. Rappelez-vous, hein, Élie, à un moment donné, on l'a déjà vu, il était comme à l'apothéose de son ministère. Sur la montagne, là, il défie 450 prophètes pour dire, voilà, voici maintenant nous allons voir qui est le vrai, véritable Dieu. On a vu comment que Élie a pu faire descendre le feu du ciel et a consumé l'Holocauste et même toute l'offrande et l'autel qu'il avait fait. On peut expliquer qu'après ce temps, ben c'est clair que le courage d'Élie est au top et on s'imagine qu'il va faire de grandes choses. Et là, du jour au lendemain, lorsqu'il apprend que Jézabel, la reine, veut le tuer parce qu'il a mis 450 prophètes à mort, il lui dit, si je te vois demain, je te tue. Et lui, le prophète plein de courage qui a fait des grandes choses, a eu peur et il s'est enfui dans le désert. Et là, il a même demandé la mort. Il a même demandé la mort. Et là, Dieu va pourvoir à ses besoins. Dieu va pourvoir à ses besoins pour lui donner à manger. Et il lui a donné assez à manger pour qu'il puisse faire 400 kilomètres à pied pour aller jusqu'à la maison, jusqu'à la montagne d'Horeb. On pourrait se poser la question. Prochain diable, pourquoi que Dieu ne se révèle pas à Élie lorsqu'il est dans le désert? C'est vrai que Élie il voulait se cacher justement de ceux qui voulaient le poursuivre. Mais Élie avait un rendez-vous spécial avec Dieu sur la montagne. Dieu voulait prendre un temps spécial avec Élie, loin du bruit. Il voulait qu'il puisse vivre un temps de rafraîchissement, seul avec lui. Et lorsque je lisais cette histoire d'Élie, je pouvais le voir comme moi. Je n'étais pas forcément dans le désert, mais je suis parti de loin de chez moi. pour pouvoir vivre sous la grâce de Dieu, sous vraiment les miracles de Dieu, et de voir comment que Dieu voulait vivre avec moi un renouvellement, un rafraîchissement. Il voulait dire aussi, comme le 1 Roi 19, verset 9, on peut ouvrir notre Bible, puisqu'on va voir quelques versets, 1 Roi, chapitre 19, et il dit au verset 9, « Que viens-tu faire ici, Élie? » Dieu pose la question. Imaginez, c'est Dieu qui conduit à la montagne d'Horeb, et là, Dieu va lui dire, « Mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Pourquoi tu es venu ici? » Et là, on voit Élie qui se plaint, « Ouais, mais Seigneur, franchement, j'ai vu, j'étais devant le peuple, j'ai montré que ta puissance, et puis là, je suis resté le seul qui te craint, tout le monde, moi, à un moment donné. » Et là, il se plaint. Il est au fond de sa grotte et il se plaint. Et je me rappelle que c'est comme un peu dans mes temps de réflexion, c'est comme Dieu me disait, « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, Philippe? » Alors, je n'allais pas me plaindre, dire, « Oh, mais ça va mal dans ma vie, comme ça. » Non, mais je dis, « Mais Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour l'Église? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ce temps? » En Roi, chapitre 19, versets 11 et 12. À un moment donné, quand il est sur la montagne, quand Élie est dans la grotte, voici ce que Dieu va lui dire. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. » Élie, imaginez Élie qui voit la puissance de Dieu à travers le fracas d'un tremblement de terre, d'un feu, d'un ouragan. Élie n'avait pas besoin de voir la puissance de Dieu de cette façon-là. Il avait vu démonstration quand le feu était descendu sur l'Holocauste, sur la montagne. Mais dans sa situation qu'il vivait, dans son désarroi, peut-être même dans son burn-out qu'il vivait, Dieu est venu comme un bruissement doux et léger. On voit comment que Dieu est un Dieu personnel. Dieu savait qu'à ce moment-là, Élie avait besoin de simplement d'entendre la voix de Dieu, mais d'une façon subtile, douce. Et lorsqu'il a entendu, on sait que Élie est sorti de la grotte. Une image qui m'est venue quand j'étais en Suisse, justement, sur la montagne, vous avez vu la vidéo, j'étais sur la montagne, et c'est vrai que sur la montagne, quand tu es sur la montagne, tu vois vraiment très loin, tu vois vraiment l'horizon. Mais imaginez que vous êtes dans une grotte qui a juste une petite entrée devant vous. Est-ce que vous avez la même perspective que lorsque vous êtes dehors? Donc, Élie voyait pour ça que Dieu lui dit, sors de la grotte. Parce que si tu es dans la grotte, tu es dans ton désarroi, tu es dans tes affaires à toi, tu ne peux pas voir l'émerveillement que j'ai pour toi. Tu ne peux pas voir ce que j'ai pour toi. Lorsque justement Élie est sorti, là, il a vu la grandeur de Dieu. Et lorsque je me tenais justement sur ces montagnes, je voyais les horizons, je voyais toutes ces beautés, je remerciais le Seigneur. Mais c'est comme dire, il faut que tu sortes des fois peut-être de ces carcans ou de ces situations que tu vis, pour voir qu'est-ce que je veux te donner. Et ça m'a fait rappeler que chacun de nous, on a besoin aussi des fois de sortir de nos grottes, dans le sens que souvent on est dans nos situations, Seigneur, ça va mal dans ma vie, je vis telle chose, tel problème, je vois pas Dieu agir, je vois pas comment que Dieu, tu réponds mes prières. Et Dieu va nous dire, sors de ta grotte, fais un pas, sors et regarde qu'est-ce que je vais faire pour toi. Regarde d'une nouvelle perspective. Et là, on voit comment que Dieu va ré lui révéler quelque chose de nouveau. Dans le prochain dia, Dieu va lui révéler qu'est-ce qu'il attend d'Élie. Et Dieu n'avait pas fini avec Élie. Donc Dieu a compris que Élie, bon, il a eu un temps vraiment incroyable avec le miracle sur la montagne. Ensuite, il a eu un temps vraiment où il me demandait même la mort, lui, Élie, le prophète. Et là, il avait besoin vivre un temps spécial avec Dieu, parce que Dieu avait quelque chose, une autre mission. L'Éternel lui dit dans le verset 15 et 16, l'Éternel lui dit, va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazael comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nisqi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat d'Abed-Noam, comme prophète pour te remplacer. Dieu avait encore une mission pour Élie. Même s'il était au plus fond de son désarroi, Dieu avait encore un plan pour lui. Imaginez que chacun de nous, quel que soit où nous sommes dans notre cheminement, quel que soit dans notre parcours de vie, Dieu a quelque chose pour nous. Même dans les temps les plus difficiles, même dans les temps où on a l'impression que Dieu n'est pas présent. On vit tous des temps de désert comme Élie, des temps où on dit, mais Seigneur, il ne se passe rien de bien dans notre vie. Et même dans ce temps-là, Dieu vient doucement nous relever. Il dit, tiens, je te donne ma gloire, je te montre ma présence, mon amour. Je te bouscule pas, je ne viens pas avec des grosses voix. Hey, il faut que tu fasses ça. Non, je viens doucement, subtil, en doux et léger, pour que tu puisses simplement reprendre courage et avancer. Parce que je n'ai pas fini avec toi. Imaginez, Dieu a cherché Élie, a fait 400 kilomètres pour juste pour lui dire, retourne sur tes pas. Le Seigneur, franchement, tu aurais pu me dire ça avant, parce que je m'aurais permis de limiter, faire 800 kilomètres pour rien. Mais Dieu voulait qu'il aille sur cette montagne, parce qu'il y avait quelque chose, un rendez-vous spécial. Et moi, j'ai vu comment que, dans ce temps sabbatique, Dieu avait un rendez-vous avec moi pour vivre quelque chose de nouveau. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour ces expériences, et on va pouvoir vous raconter, au fur et à mesure, un peu comment ça a eu un impact dans notre vie et qu'est-ce que Dieu nous montre aussi pour la suite de l'Église par rapport à notre ministère aussi. Alors, prochain dia, qu'est-ce que pour nous veut dire tirer cette expérience? C'est vrai que c'est plus un témoignage aujourd'hui de ce que j'ai vécu. Je pense qu'on peut remercier Dieu. Je crois que vous avez été avec nous dans la prière et on vous remercie beaucoup de votre soutien à travers vos messages, à travers vos prières. Mais remerciez Dieu parce que Dieu nous connaît là où nous sommes. Remerciez Dieu même quand ça va mal. Vous dire, Seigneur, je sais que tu as quelque chose. Je sais qu'un jour, je vais monter sur la montagne, puis je vais voir quelque chose de merveilleux avec toi. Dieu peut nous conduire dans ces temps-là. Dieu veut encore en 2025 prendre des rendez-vous spéciaux. Peut-être pas de partir à l'autre bout du monde ou comme ça, ou prendre des congés. Mais Dieu a des rendez-vous. Dieu veut prendre des temps avec vous. Et moi, je vous encourage. Une chose que j'ai vue, je suis un homme qui aime beaucoup faire des choses, qui dès le matin veut travailler jusqu'au tard le soir. Mais j'ai réalisé l'importance de prendre des temps seul avec Dieu. Même si c'est une demi-heure, une heure. Même si pendant ce temps-là, je ne peux pas faire des choses dans mon travail. Mais j'ai vu comment que Dieu aime quand on passe du temps avec lui. Il aime quand on passe du temps de qualité parce qu'il veut nous parler. C'est assez rare que Dieu nous parle dans le brouhaha. C'est assez rare que Dieu nous parle même peut-être lors des cultes, dans les temps de louange. Oui, Dieu peut nous donner la force de nous dire quelque chose. Mais quand il veut aller au fond de notre cœur, il veut qu'on monte sur la montagne. Il veut qu'on puisse l'entendre nous parler avec un fond subtil, un murmure doux et léger. Pour avoir un murmure doux et léger d'entendre Dieu, il faut qu'on soit attentif. Si en même temps, on est en train de penser à tout le travail qu'on va faire de la journée ou toutes les occupations qu'on doit faire, on n'arrivera pas à entendre la voix subtile de Dieu. Voilà pourquoi dire, Seigneur, dans cette année, je veux encore prendre des temps d'écoute. Et on va avoir l'occasion, bientôt, on vous parlera un peu plus, de prendre justement un enseignement, comment écouter réellement Dieu. On va prendre des enseignements pour pouvoir dire, Seigneur, je veux vraiment t'écouter. Je veux vraiment comprendre ce que tu as pour moi dans ma vie. Il y a une question qui s'est aussi posée, c'est de voir justement comment que lorsqu'on marche par la foi, comment que Dieu ouvre les portes. Et je vous encourage aussi que même si peut-être vous n'avez pas toutes les réponses par rapport à des besoins, par rapport à certaines choses, de marcher par la foi. Dire, Seigneur, tu me dis d'aller. Où? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Avec quoi? Je ne sais pas. Mais Seigneur, je marche, je fais un pas à l'avance et puis tu vas ouvrir les portes. J'ai vu comment que si je serais resté ici, je vois un peu, ma fille est partie en Europe pour quelques temps, et quand elle nous expliquait tout son travail, c'est comme un programme de A à Z, tout ce qu'elle allait faire. Et quand je regardais, elle, le programme qu'elle avait fait, tout organisé, et moi, je dis, waouh, on est vraiment deux personnes différentes. J'avais organisé des choses, mais la moitié de ce que je pensais faire ou que je voyais, Dieu a fait différemment. Lorsqu'on marche par la foi, Dieu fait des choses merveilleuses. Mais il faut être prêt à avancer dans l'inconnu. Et ça permet vraiment de voir, de laisser Dieu fidèle, d'avoir confiance en Dieu. Alors, une autre question qui m'est venue aussi, que peut-être vous êtes posé la question, par rapport comment que va se passer à l'Église pendant notre absence. Hein? Plusieurs questions m'ont dit, mais pasteur, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes parti? Ben, j'ai dit, ben, l'Église va continuer. Hein? Je crois qu'il y a le pasteur Herman, le comité officiel qui était là, qui allaient vivre aussi une expérience. Et je sais qu'au début, nous l'avons partagé comment c'était un peu difficile. Vous êtes à votre crainte. Imaginez, du jour au lendemain, de s'occuper d'une église avec peut-être des dossiers qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. C'était vraiment dur peut-être au début, mais on a vu par la suite comment ils ont pris leur place. Ils ont même proposé des choses. Même des personnes qui m'ont dit qu'il fallait que je parte un certain temps pour que les leaders émergent et prennent leur place. Si je serais parti juste 2, 3 semaines, ils n'auraient pas eu le temps d'émerger. Mais puisque je suis parti plus longtemps, ben Dieu s'est occupé d'eux. Je remercie le Seigneur de voir que ça, c'était quelque chose que moi, je n'avais même pas imaginé dans mon temps de retraite, dans le temps sabbatique, de voir comment que Dieu conduisait les choses. Et ce que j'ai pu réaliser, comme je l'écris justement sur l'écran, que ce n'est pas l'église du pasteur Philippe ou l'église du pasteur Herman, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui conduit. Il met des personnes en place, il permet qu'ils puissent émerger, puissent grandir, progresser. Donc, ça ne veut pas dire que je ne serai plus là demain, mais mon rôle va peut-être changer, je vais au fur et à mesure changer un peu par rapport à certaines obligations et responsabilités, mais j'ai vu comment que l'Église continuait de progresser. Je dois vous avouer qu'il y a 4 ans, lorsqu'on voulait partir la première fois en temps sabbatique, ma grande crainte, c'était qu'est-ce qui va se passer avec l'Église? Il y a 4 ans, il n'y avait pas aussi une belle équipe de leaders, il n'y avait pas aussi une belle relation dans l'Église. Et j'avais peur de dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'étais en train d'organiser peut-être qu'un pasteur vienne en temps justement pour me remplacer. Donc j'avais tout plein de projets. Bon, il y a eu la pandémie, mais aujourd'hui, quand je suis parti l'année passée, ben, au mois de d'août, je n'ai pas eu cette crainte. Je savais qu'ils allaient vivre des choses difficiles. Je m'attendais à quelquefois que Jeanne ou le pasteur Eman allait m'appeler. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ils m'ont très peu appelé ou je ne répondais pas, puis ils se sont débrouillés par la grâce de Dieu et je les remercie beaucoup. Mais j'ai vu comment que Dieu les a utilisés pour continuer l'Église. Alors, j'aimerais simplement qu'on puisse terminer par un temps de prière. Et chacun de nous, même si c'est mon expérience personnelle, dire, Seigneur, est-ce que je peux vivre quelque chose comme le pasteur Philippe? Pas forcément dans un temps sabbatique, mais dire, est-ce que dans cette année 2025, je peux vivre par la foi? Est-ce que je peux voir que même mes soucis financiers, Dieu va les combler? Est-ce que je peux voir comment que Dieu veut me conduire sur le chemin qu'il a tracé pour moi? Est-ce que je peux voir comment qu'il veut des temps spéciaux avec moi? Il veut des temps vraiment de qualité. Et je vous dis que dans notre société occidentale, nord-américaine, on ne prend plus le temps avec Dieu. Voilà pourquoi que souvent, souvent, des hommes, des femmes qui ont des grands ministères tombent. Voilà pourquoi que des églises, à un moment donné aussi, tombent. Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'écouter le Saint-Esprit. Ils ont plein de projets. Puis là, ils disent, Dieu, bénis ces projets. Mais Dieu veut dire avant tout, arrête-toi. Reste dans ma présence, puis je vais te révéler ce qui est caché, te révéler ce que tu dois faire. Alors simplement, on peut se lever chacun de nous. J'aimerais que chacun de nous, on puisse prier, remercier Dieu pour l'expérience qu'on a vécue, mais aussi pour ce que Dieu nous apprend à travers ça. Et aussi prier pour vous, pour chacun de vous, dire Seigneur, permets que je puisse vivre dans cette année 2025 ce renouveau dans la foi. Permets que je puisse revivre ces temps de communion, des temps de présence forte avec le Seigneur, des temps où je vais entendre Dieu me parler, où je vais ressentir sa présence, je vais sentir comment que Dieu m'aime, des temps où je vais pouvoir mettre ma foi en action, où je vais voir que Dieu ouvre des portes, ferme d'autres portes pour que je puisse aller dans le chemin. Alors levons-nous et prions chacun de nous à haute voix pour qu'on puisse vraiment remercier Dieu et demander la grâce de Dieu pour qu'on voie Dieu agir dans notre vie. Amen. Alors prenons quelques instants, prions à haute voix, sentez-vous à l'aise selon le Saint-Esprit, et ensuite je terminerai par la prière de bénédiction. Oui Seigneur, on veut te remercier parce que c'est vrai que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui es fidèle, tu restes fidèle, comme on l'a chanté tout à l'heure, tu es fidèle. Au-delà même des choses qu'on peut penser, imaginer. Tu nous l'as montré, Seigneur, à travers ce temps sabbatique, et tu veux qu'on nous le montre dans cette année 2025 pour chacun de nous. Tu veux nous montrer que, Seigneur, lorsque, Seigneur, on est à tes pieds, lorsqu'on t'écoute, lorsque, Seigneur, on vit ces temps de présence forte avec toi, Seigneur, tu ouvres des portes, tu ouvres des portes. Tu nous permets de marcher par la foi et de pouvoir franchir des obstacles que personne ne pouvait imaginer. Alors, Seigneur, je te prie maintenant pour chaque personne ici présente, que ce soit ici en présentiel, sur Zoom aussi, que, Seigneur, dans cette année, ils puissent voir comment que, Seigneur, tu as encore des rendez-vous spéciaux avec eux, que tu veux encore des temps où ils vont pouvoir s'arrêter, où tu vas pouvoir les aider, les aimer, où tu vas pouvoir leur parler, même dans les temps de difficulté, même dans les temps où peut-être le désespoir, l'amertume ou d'autres choses pèsent sur ces personnes, nous savons comment que tu vas être là, comme tu as été avec Élie. Tu l'as nourri. Tu l'as nourri pendant des jours et des jours, même par des corbeaux. Tu l'as accompagné, Seigneur, sur la montagne. Tu t'es révélé à lui d'une manière douce. subtil. Et Seigneur, on a besoin, Seigneur, de vivre cela avec toi. Des temps forts, des temps où, Seigneur, tu vas nous parler, ou des temps où tu vas nous diriger dans notre vie, dans le ministère que tu nous confies, dans les responsabilités que tu nous accordes. Alors, merci. Merci parce qu'on ne va pas seul, mais avec toi, Seigneur Jésus. Et je te prie que chaque personne ici présente sur Zoom puisse vraiment bénéficier, puisse découvrir une nouvelle facette de toi durant ces prochains temps, une façon nouvelle de te rencontrer, une nouvelle façon de t'écouter et de voir comment que tu as de grandes choses, de belles choses que tu veux aussi faire pour eux. Alors, je te prie, Seigneur, de mettre ta main de grâce sur eux, ta main, Seigneur, de force, de puissance, pour que, Seigneur, tu puisses les relever là où ils sont. Tu puisses, Seigneur, leur accorder tes grâces dans leur situation de santé, peut-être de physique, dans leur situation de santé spirituelle, pour que, Seigneur, tu les relèves, tu leur donnes une restauration nouvelle, et que par ton nom, ils puissent continuer de marcher, afin qu'ils puissent, Seigneur, démontrer comment que tu es grand et tu es puissant. Que, Seigneur, tu puisses aller les amener dans le chemin que tu as tracé pour eux. Comme, Seigneur Ali, tu dis, retourne, retourne, parce que j'ai encore une mission pour toi. Tu as une mission pour chacun de nous dans cette année 2025. Seigneur, montre-la à nous. Montre-nous, donne-nous tes forces pour pouvoir la faire. Et que ton nom seul soit proclamé. Que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles et dans cette église. Nous te prions, nous te remercions pour tout ce que tu es. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Amen.